Elle, 10h40 à Paris.
Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le Mali, de nouveau endeuillé, une semaine après la tuerie de Sobane qui a fait 35 victimes. Lundi soir, ce sont deux autres villages Dogon du centre du pays qui ont été la cible d'attaques. Il y aurait 41 morts selon l'ONU, des attaques qui n'ont toujours pas été revendiquées, mais qualifiés de terroristes par le gouvernement. En tout cas, le procureur du pôle antiterroriste a pu constater des similitudes entre ces trois dernières attaques. Il s'agit de groupes organisés qui circulent à moto et qui sont lourdement armés. Ils ont des armes de guerre et c'est ça le véritable problème à expliquer à la presse Boubacar Sidiki Samaké. En tout cas, rappelez-vous, la semaine dernière, et on en parlait déjà ensemble, lors de son déplacement à Sobane, le chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, avait promis le désarmement immédiat de tous ceux qui détiennent illégalement des armes. En attendant, les attaques continuent. Alors, quelle doit être la réponse de l'État? Comment garantir la protection des civils? RFI vous donne la parole. Vous êtes nombreux. 33 9 693 693 70. Vos réactions, évidemment, sur la page Facebook de l'émission, sur le compte WhatsApp. Il y a par exemple Maki qui nous dit « Mais pourquoi ne pas mettre au moins 15 soldats sur des pick-up dans tous les villages du centre du pays, comme c'est le cas sur les ronds-points de Bamako? On ne peut pas comprendre comment il peut y avoir des villages sans la moindre présence des forces de l'ordre, des villages livrés à eux-mêmes. » Bonjour Ousmane. Ousmane ?
Oui, Juan, je suis là.
Vous êtes là et on vous entend, c'est parfait. Vous êtes dans la capitale malienne et vous disiez au Standard qu'il était temps qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne se contente plus d'effets d'annonce. Il doit passer de la parole aux actes.
Oui, absolument, Juan. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de Maliens ne croient plus en ce que le président de la République dit. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle de désarmement des milices, mais ça ne marche pas. Et il a déclaré, quand il y a eu une attaque contre Ogossagou, le président de la République a interdit le Dana Ogossagou, mais ce Dana Ogossagou a déclaré qu'il ne répondait pas aux intentions du président de la République. Donc il y a visiblement une incapacité au niveau de l'État à faire face aux problèmes. Donc il ne faut pas donner de faux espoirs, parce que lors de la visite à Sobane du président de la République, il a été complètement boudé par les autorités. Hein. Les autorités locales l'ont complètement boudé. Ça s'est passé sous silence, mais on le sait à travers les journaux dont les représentants et les envoyés spéciaux étaient sur place.
Bon, Alors, si vous le dites, Ousmane, si vous le dites qu'il a été boudé par les autorités locales, je veux bien vous croire sur parole, mais comment désarmer ces groupes d'autodéfense qui ont vu le jour ici et là dans le centre du pays? Ils sont nombreux, ces groupes d'autodéfense qui finalement ont décidé de prendre les armes à tort ou à raison, mais en tout cas ces groupes disent, puisque l'État est incapable de nous protéger, eh bien nous allons nous protéger nous-mêmes.
Ah, mais c'est justement ça le problème. L'État est incapable de protéger les populations et les populations voient dans les milices les forces capables d'assurer leur sécurité. Et tant que l'État ne pourra pas assurer la sécurité des populations, je ne vois pas comment il pourra désarmer les milices. Oui. Parce que les populations sont complètement acquises aux milices qui sont sur place.
Vous restez en ligne, Ousmane. On vous retrouve dans un instant, si vous le souhaitez. Je voudrais qu'on donne la parole à Djoumé. Bonjour.
Bonjour, Ran. Bonjour, RFI.
Alors, quelle doit être la réponse de l'État malien?
Je pense qu'il est temps d'agir. Parce qu'il ne faut pas rester là à dire « on va désarmer les milices, on va faire ceci, on va faire cela ». L'AMUNISMA est chez nous depuis combien d'années? Barkhane est là. Il y a plus de 119 nationalités différentes, avec tous les moyens, toute la logistique. Malgré tout, on continue à terroriser notre population.
Le réseau téléphone, Djoumé, excusez-moi, le réseau téléphone s'est considérablement dégradé entre le moment où nous vous avons rappelé et votre passage à l'antenne. On va essayer de vous retrouver dans un instant, le temps de régler tout ça hors antenne, bien évidemment. Qui avons-nous au standard? Je vois sur mon écran Abdoulaye. Est-il là? Il est là. Bonjour Abdoulaye.
Oui, bonjour Alain.
Consterné par ce qui se passe dans le centre de votre pays?
Oui, tout à fait, Ron. Franchement, parler, je pense que là, on a atteint notre point de rupture. Hein, parce que là, les massacres qui s'enchaînent comme ça, là, franchement, c'est pas possible de continuer à faire ce là, Ron. Donc, je suis concerné.
Abdoulaye, excusez-moi, je vous interromps. C'est comme si on nous avait jeté un mauvais sort. Toutes les lignes se sont dégradées et elles se dégradent les unes après les autres. Quand vous parlez à l'antenne, vous ne l'entendez pas, Abdoulaye, mais quand vous parlez, voilà, vos propos sont hachés. C'est indépendant de notre volonté, de la vôtre également. On a un petit problème technique, mais on va régler tout ça, évidemment. Allez, on me dit qu'Amadoum est avec nous, mais avant d'accueillir Amadoum, je me fais quand même le porte-parole des dizaines d'auditeurs qui nous ont envoyé des commentaires. Il y a par exemple Isadine qui nous dit: si l'État malien ne peut pas assurer la sécurité de sa population, quelle est donc sa raison d'être? Un État qui attend l'aide des armées étrangères pour le secourir est un État défaillant. Fidélis affirme que l'armée malienne est la plus faible dans le maillon du G5 Sahel. Le gouvernement n'a aucune politique en matière de sécurité. Du coup, le terrorisme s'étend avec une proportion inquiétante et profite de la crise pour créer un chaos sécuritaire. Au standard, je croise les doigts. Amadoum, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors là, c'est Amadoum. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, pas du tout. Non. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce qui se passe. Entre Paris et Bamako, on a un problème de réseau téléphone. En fait, quand vous intervenez à l'antenne, vos propos sont hachés. Donc, comme nous n'avons pas le décodeur, nous ne pouvons pas décrypter vos commentaires. Je vois l'équipe technique, évidemment, s'arracher les cheveux pour essayer de régler les lignes. On est en direct, c'est comme ça. Il y a des jours où ça roule, tout va bien, et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Qui avons-nous? Hibou, me dit-on. Bonjour Hibou.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Ah, on vous entend bien Hibou. D'où appelez-vous?
J'appelle de Bamako.
De Bamako. Alors, qu'attendez-vous désormais des autorités maliennes après cette série d'attaques dans le centre du Mali?
Bon, franchement, personnellement, je n'attends rien d'eux parce que je ne les vois rien faire. Je ne les vois rien faire. Pourquoi? Parce que depuis des années, c'est la même situation. Depuis des années, on nous dit qu'il y a des milliards et des milliards qui sont déboursés pour payer des armes, des hélicoptères et tout ceci. Mais à chaque fois, on sait les ennemis du Mali ce qu'ils font. Ils se déplacent en moto, c'est des groupes, ils sont visibles. Et personne n'arrive à les voir, personne ne sait qui. Ils attaquent partout, dans tous les sens. On a assez de moyens quand même. On a les populations avec nous, on a l'armée avec nous, plusieurs armées. On a en principe des hélicoptères qui peuvent nous permettre de se déplacer assez rapidement. On peut quadriller le centre du Mali. Pourquoi ne pas quadriller le centre du Mali et faire en sorte que à 30 km, que l'armée soit à 30 km de toutes les villes, de tous les villages?
Oui. Mais alors, à vous entendre, Hibou, ça a l'air bien simple et bien facile. Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi l'armée et les autres armées, je pense aux armées étrangères, la force Barkhane, force française, les casques bleus de la MINUSMA, pourquoi ne parviennent-ils pas à quadriller justement le centre de votre pays?
Ben, écoutez, parlant de Barkhane par exemple, moi je vous donne un simple exemple. Barkhane dernièrement, avec les commandos français, les forces françaises, ont fait un exploit la dernière fois. Alors il y a 4 personnes qui ont été enlevées au Bénin dernièrement, et du Bénin, ils ont traversé le Bénin, le Burkina, ils sont arrivés au nord du Burkina, presque au Mali, mais ils ont été attrapés. C'est à cette occasion que les 2 commandos français sont même morts. Vous voyez, sur l'étendue de pratiquement 3 pays, Barkhane a pu quand même déceler ces gens-là avec le renseignement américain. On a pu les voir et on a pu délivrer les 4 otages. Mais par contre, chez nous, à chaque fois, il y a des tueries qui se font massivement, des groupes en moto, et on ne voit rien. On a appris dernièrement que
puisque vous parlez de Barkhane, on a appris que Barkhane et les forces armées maliennes avaient neutralisé samedi dernier une vingtaine de djihadistes dans le nord-est du Mali. Donc vous ne pouvez pas dire que Barkhane se croise...
Je me demande si ce n'est pas des effets d'annonce, parce qu'à chaque fois qu'il y a un sentiment anti-français à Bamako, au Mali. À chaque fois qu'au Mali, les gens se disent « Ah non, mais les Français sont là, il y a un accord de défense entre nous, on n'est pas assez aidés, qu'est-ce qui se passe ?» Quand les gens se plaignent, les réseaux sociaux sont inondés de choses sur la France, eh bien on apprend tout de suite que Barkhane et l'armée malienne a fait quelque chose par ci. On se demande souvent si ce n'est pas des effets d'annonce aussi.
Ouais. Donc vous comprenez qu'une partie de la population, je ne sais pas si elle est importante, mais effectivement, il y a une partie de la population qui s'interroge sur l'utilité de Barkhane, mais aussi sur l'utilité des casques bleus dans votre pays.
Mais bien sûr, parce que le casque bleu, déjà à plusieurs reprises, on a demandé à rendre les mandats des casques bleus plus robustes, ce qui n'a jamais été fait. Les casques bleus, ils sont là, ils se font eux-mêmes attaquer, ils sont faibles. Barkhane, les gens se plaignent de Barkhane, surtout que dans la mémoire collective des Maliens aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de gens sont en train de se mettre dans la tête qu'il y a un complot de la part de la France. Beaucoup ont ça en tête. Quand on sait qu'il y a des vidéos qu'on a vues circuler, deux anciens ambassadeurs français qui ont quand même parlé, donc du coup, les gens se demandent même si c'est pas volontaire. Ce n'est pas facile. Et le Mali.
Honnêtement, j'ai pas connaissance de ces vidéos dont vous parlez, Hibou. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'inquiétude. On ne comprend pas trop comment expliquer que les attaques se multiplient alors que la force Barkhane est sur le terrain, que la MINUSMA est également déployée. On a vu, c'était lundi, des jeunes de Mopti aller à Sévaré manifester devant le bureau local de la MINUSMA. Ils étaient plusieurs centaines à dénoncer l'inefficacité des casques bleus. En substance, que disaient ces jeunes? Eh bien, ils disaient, si les casques bleus n'arrivent pas à protéger les populations civiles, alors que c'est leur mandat, eh bien, que ces casques bleus quittent le pays. Et certains d'entre vous le disent également sur la page Facebook de l'émission. Si je retrouve les commentaires, il y a par exemple Ibrahim qui dit, si la MINUSMA et les forces Barkhane n'arrivent pas à aider l'armée malienne à sécuriser les personnes et leurs biens, eh bien qu'elles s'en aillent, affirme cet auditeur. Coloma, lui, nous dit, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Soit les forces étrangères s'impliquent sans réserve, soit elles se retirent pour donner plus d'espace à l'armée malienne afin de pouvoir arrêter ces tueries. Au standard, 33 9 693 693 70, bonjour Amadoum.
Bonjour Juan.
Alors, on vous écoute. Qu'attendez-vous du gouvernement malien?
Bon, comme ça a été dit par mes prédécesseurs, il est temps qu'on sorte des effets d'annonce et qu'on passe aux actions.
Alors, vous savez quoi? Excusez-moi, Amadoum, je suis désolé, le réseau se dégrade. On ne sait pas vraiment ce qui se passe ce matin. Pourtant, quand on vous a hors antenne, les lignes sont excellentes. Mais dès qu'on appuie sur le bouton pour que vous puissiez vous exprimer, vous voyez, il y a j'arrive plus à parler moi-même. Qui avons-nous au standard? On est en direct. Abdelkader, bonjour.
Bonjour, Juan.
Comment allez-vous?
Oui, je vous remercie infiniment en tant que média français de mettre ce sujet sur la table.
Oui.
Et sincèrement, par rapport à la situation au Mali, il faudra comprendre que la situation au centre n'est que la résultante de ce qui s'est passé au nord. Et ce qui s'est passé au nord, nous savions que c'est parce que la France s'est impliquée avec un jeu trouble. C'est ce qui a compliqué la situation jusqu'à ce jour-là. Et on ne pourra pas trouver une solution au Mali tant qu'on ne règle pas le problème du nord. Et pourtant, nous comprenons que malgré que la France soit là, là un accord de défense militaire avec le Mali.
Mais quand vous dites, excusez-moi, le réseau, excusez-moi, dialoguons un tout petit peu. Le réseau, je sais, est très très mauvais, mais dialoguons un tout petit peu. Quand vous dites quand vous parlez du jeu trouble de la France, soyez un peu plus explicite.
Oui, lorsque nous avions vaincu les djihadistes à Kona, l'armée française a refusé, Serval a refusé que l'armée malienne rentre à Kidal. La France a fait exprès de prendre des gens comme étant propres, ce sont ses amis, pourtant c'est des djihadistes.
Et depuis ce jour-là, on n'a pas trouvé de solution à ces djihadistes.
Donc vous faites clairement un lien entre la situation dans le nord du pays et la situation dans le centre. Je suis vraiment désolé, hein, je m'excuse et je n'arrête pas de m'excuser depuis le début de l'émission, mais on a de gros problèmes de liaison téléphone entre Paris et Bamako. Vous l'entendez, vous qui êtes à l'écoute de RFI. On ne sait pas ce qui se passe. Je me fais donc le porte-parole et heureusement que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos commentaires sur WhatsApp et Facebook. Il y a Oumar qui nous dit « Il faut renforcer les effectifs des FAMA, donc les forces armées maliennes. » Ousmane nous dit « L'État malien doit recruter des militaires pour couvrir toutes les localités et dissoudre toutes les milices. » Ibrahim aborde un point très intéressant. Il nous dit « Des innocentes personnes sont tuées et aucune sanction, aucune poursuite n'est engagée. Pourtant, les terroristes et leurs complices sont connus. » Et les propos que je viens de citer, les propos de notre auditeur Ibrahim, me font penser à ceux du président de l'Association malienne des droits de l'homme. Vous l'avez certainement entendu ce matin sur notre antenne. Il part du constat que toutes les tueries s'expliquent, et je reprends ses propos, par le laxisme de l'État. Il n'y a jamais eu de véritable poursuite. C'est donc une promotion à l'impunité, disait-il sur notre antenne. Donc cette Association malienne des droits de l'homme qui interpelle les autorités, certes à agir vite pour enrayer le cycle des violences, mais surtout à appliquer la justice pour permettre le retour de la paix. Une deuxième tentative avec Djoumé. Êtes-vous là, Djoumé?
Oui, je suis là, Juan. Bonjour.
Rebonjour. Que disiez-vous tout à l'heure? On avait du mal à vous entendre.
Je disais que malgré la présence de toutes ces forces, on continue à terroriser notre population. Je pense qu'il est temps d'agir. Il est temps que les autorités maliennes demandent à l'ONU de changer la nature de l'accord de la MINUSMA, que ça devienne beaucoup plus offensif. Mmh. Et puisqu'on connaît déjà que les méchants, les terroristes sont installés dans le Burma, pourquoi ne pas tout simplement aller installer une base aérienne là-bas, une base militaire?
Aller sur place, aller là où ils sont. Djoumé, je vous interromps, hein, je suis vraiment désolé. Voilà, les lignes sont mauvaises. On va essayer avec un auditeur de Paris, en espérant que la ligne sera meilleure. Qui avons-nous? Vous me l'avez dit, Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
Oui, bonjour tout le monde.
Bienvenue, ça fonctionne avec Paris, on vous écoute.
Oui, c'est tout, donc cette sixième me préoccupe beaucoup. Car la situation est trop dure, en fait. Et depuis 2013, cette guerre a changé de visage, en fait. Et la crise, elle a commencé de Libye jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Mais enfin, concrètement, aujourd'hui, Abdoulaye, que faut-il faire? On ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, qu'attendez-vous du gouvernement malien?
Moi, je n'attends rien du tout du gouvernement malien, ni de MINUSMA et ni de la force Barkhane, en fait. Mm-hmm. Parce que pour moi, en fait, la guerre, en fait, du fait qu'elle est devenue une guerre idéologique, donc c'est pas avec les armes qu'on va gagner cette guerre, en fait.
C'est pas par les armes. Alors, que faut-il? Faut-il négocier, alors?
Moi, je parle même pas de négociation, en fait. Parce que si on prend l'histoire du Mali, le Mali, en fait, a une vertu qui est l'entente, qui est... Donc, en fait, avant, ça a tout été dans l'histoire du Mali, mais par contre, en fait, on s'assoit...
Oui. J'ai du mal à vous comprendre. Vous dites pas tout. Il ne faut pas privilégier l'option militaire. Et même, donc je vous dis, est-ce qu'il faut négocier? Vous me dites non, il faut pas négocier. Donc concrètement, Abdoulaye.
Non, parce qu'en fait, moi, quand je parle de négociation, parce que pour parler de négociation, donc les gens, ils vont essayer d'imposer en fait des conditions, en fait.
Quand on négocie, effectivement, il faut poser des conditions et il faut trouver des compromis. Bon, le débat est loin d'être clos. Merci à tous et encore une fois, toutes nos excuses pour les problèmes de réseau téléphone. J'espère que ça ira mieux demain pour la libre antenne. Vous continuez évidemment à nous appeler 33 9 693 693 70. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook. RFI appelle sur l'actualité. Merci à tous de votre fidélité et je salue évidemment Alexis et Michael Verne et Alexis de Vavasseur pour tous leurs efforts afin d'avoir les meilleures liaisons de téléphone. Ça n'a pas vraiment fonctionné ce matin, mais ça ira mieux demain.
Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous a proposé appel sur l'actualité.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
On vous retrouve dans 10 minutes. Priorité santé, gros plan ce matin sur les affections ORL.
Otorhino-laryngologiste, je l'ai bien descendu. Oui, toutes ces maladies dont l'on nous est familier, hein, les angines, les rhumes, les otites, les sinusites, décrire les symptômes.